Je vous remercie. Nous allons lire la Bible. Jean chapitre 5. Si vous avez trouvé Jean chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 5. Je vais lire du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bonjour à tout le monde. Depuis que la cantate de Noël a commencé ce mois de décembre, je me promène beaucoup par voiture. Heureusement, quand les concerts ont débuté à Séoul, j'étais à Séoul, mais hier, je suis allée à Daegu. Et aujourd'hui, après ce culte, je dois aller à Jeonju. Et quand il y a un petit moment de pause entre les concerts, il nous faut accueillir les invités, discuter sur la vie spirituelle, faire des entretiens. Et quand j'ai un petit temps le matin, je discute beaucoup avec nos pasteurs. Et j'ai tenu des moments très intéressants avec nos pasteurs. Et nous avons beaucoup discuté sur Hébreux chapitre 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et nous avons beaucoup discuté sur ce propos. Beaucoup de gens qui fréquentent l'Église. En fait, il n'y a personne qui ne sache pas que Jésus-Christ est crucifié. Même les non-croyants le savent. Néanmoins, par la mort de Jésus-Christ à la croix, nos péchés ont été lavés. Ils le savent aussi. Il est mort pour mes péchés et ils savent que nos péchés ont été pardonnés, mais le péché subsiste. Et sur ce point de vue, beaucoup de gens se sont trompés par Satan. Il se trompe par Satan. Et quand j'ai tenu un séminaire à Daegu un jour, un journaliste de la presse Daegu était venu m'interviewer. « Pasteur, donnez-moi une demi-heure pour l'interview. » Ok, bon, d'accord. Et en parlant lors de l'interview, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qui différencie, pasteur, votre église des autres églises? Je lui ai demandé s'il allait à une église. Il a dit non. Il ne connaît rien de vie spirituelle, il ne connaît rien du christianisme. Il n'est qu'un journaliste en charge de la culture, de la religion. Je lui ai dit, savez-vous que Jésus-Christ est mort à la croix? Oui, je le sais. Alors vous savez aussi la cause, la raison pour laquelle il est mort sur la croix? Oui, il est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? Oui. En fait, il n'y a qu'un seul point qui diffère de notre mission en bonne nouvelle des autres églises. Pour les autres, ils affirment que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais nos péchés subsistent. Et nous, nous disons que nos péchés ont été lavés par la mort de Jésus-Christ. Le salaire du péché a été payé. Et c'est ainsi que nos péchés ont été lavés. C'est ça la différence. Il fut très, très étonné. Alors, qu'est-ce que les gens d'autres églises croient? Disent-ils vraiment qu'ils sont pécheurs? Je lui ai dit d'aller leur demander lui-même. Il me disait, je ne comprends pas, pasteur. Ces nombreux gens qui croient en Jésus-Christ, tout en confessant que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a pardonné nos péchés, disent-ils vraiment que le péché subsiste dans leur cœur? J'ai dit oui. Êtes-vous sûr? J'ai dit, allez leur demander. Et je pense qu'il y était allé demander dans certaines églises. Il les avait appelés, en fait. Plus tard, il a écrit un article sur notre mission, sur notre église, et de façon très, très détaillée. Le lendemain de la publication de l'article, de nombreux pasteurs d'autres églises lui ont empêché de travailler, en fait. Il a dit, en tant que journaliste, j'ai écrit ce que j'ai vu et ressenti du pasteur Oaks Park et que j'ai publié cet article. En quoi alors cet article vous cause un problème? En fait, au cours de notre vie sur Terre, ce qui est plus malheureux, c'est que au commencement, Dieu a défendu à l'homme de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, si on ne mangeait pas, si l'homme n'avait pas mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, on ne saurait pas distinguer le bien et le mal. Pourquoi Dieu nous a empêchés? Pourquoi Dieu nous a empêchés à manger? Est-ce qu'il méprise? Est-ce qu'il nous méprise? Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas besoin de connaître le bien et du mal? Cela n'a pas de sens. Donc, dû à l'arrogance de l'homme, il mangea le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et depuis qu'il ait mangé ce fruit, les normes de l'homme, de la pensée de l'homme, n'étaient pas seulement sur le standard du bien et du mal, mais dans d'autres domaines aussi, l'homme possède ses propres standards ou normes de pensée. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui possèdent des normes qui sont très différentes de la Bible. Un jour, un homme de la loi demande à Jésus-Christ, Maître, vous êtes un bon maître. Et Jésus-Christ dit, Pourquoi tu m'appelles bon? Dieu est le seul à être bon. En fait, Dieu est la norme du véritable bien. Mais l'homme possède des normes différentes, des normes du bien qui sont différentes à celles de Dieu. Pour l'homme, il s'agit d'aider les autres, de faire l'aumône, d'avoir pitié des gens pitoyables, de se sacrifier, etc., etc. Mais les normes de Dieu ne sont pas pareilles. Lors du déluge de Noé, et que lorsque Dieu avait jugé les hommes, il n'a pas distingué des hommes selon le fait que l'homme a fait du bien, ou à quel point il a aidé les gens pauvres, à quel point ils se sont sacrifiés, ils ont donné d'offrande à Dieu. Parce que Dieu est le seul à être bon. Dieu voyait seulement une seule chose, soit on suit la parole de Dieu, ou soit on a suivi nos propres pensées. Aujourd'hui, beaucoup de gens fréquentent l'église et ils prient et se disent, j'ai fait quand même du bien. Alors Dieu va me plaire. Et c'est avec cette fierté-là qu'ils fréquentent l'église. Mais s'ils font des disputes, ou qu'ils mentent, ou qu'ils volent, en commettant des péchés, ils ont si honte qu'ils ne peuvent pas aller à l'église. Ils détestent même aller à l'église. Et dès qu'ils oublient leurs crimes, ils veulent revenir à l'église. C'est ainsi que les normes du bien de l'homme sont différentes de celles de Dieu. Pour l'homme, il s'agit de se sacrifier pour les autres, de vivre de manière droite et correcte. Autrement dit, toute parole qui vient du cœur de Dieu sont différentes. Toutes les paroles qui se produisent du cœur de Dieu sont des biens. Alors, peu importe le bien que nous produisons, tout ce qui provient des efforts et de la détermination de l'homme ne sont pas des biens du point de vue de Dieu. Alors, au déluge de Noé, Dieu n'a pas détruit les gens qui avaient commis du mal, qui avaient commis du vol, du meurtre, du mensonge ou de l'adultère. Quelle que soit notre obéissance, si on ne suivait pas la parole de Dieu, qui, selon laquelle il allait pleuvoir, tous ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche, en fait, ont été détruits. Et quelle que soit leur méchanceté, leur convoitise, leur saleté, ceux qui avaient accepté la parole de Dieu ont été sauvés par Dieu. Et de nos jours, la plupart des églises, ils mènent une vie spirituelle qui dépend des normes du bien et du mal de l'homme. Et la plupart des normes de ces personnes sont très très éloignées de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme ne pouvait qu'être un homme infaillible, mais par la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ, nous avions été libérés, nous avions été délivrés par sa mort. Donc ce n'est pas par nos biens ou par nos bonnes œuvres que nous sommes rendus justes, mais c'est par la mort de Jésus-Christ à la croix, par la grâce de Dieu que je suis justifié. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire, que nous avions été justifiés. Alors, quand Dieu nous voit et il regarde le sang de Jésus-Christ et il nous appelle juste, tu es juste, tu es juste, tu as été justifié. Donc, même à un meurtrier, Dieu dira, tu es juste. Pourquoi? Il voit le sang de Jésus-Christ. Même celui qui a commis l'adultère, Dieu l'a appelé juste. Pourquoi? En voyant le sang de Jésus-Christ. Même à celui qui a volé, Dieu l'appelle juste. Pourquoi? Parce qu'il regarde le sang de Jésus-Christ. C'est pareil même pour un meurtrier, pour quelqu'un qui a commis l'adultère ou le meurtre. J'ai très souvent raconté l'histoire du frère Shimon Sop. Et la femme de ce frère me disait que quoi? Mon mari boit de l'alcool depuis 20 ans. Et d'habitude, par jour, il boit 7 bouteilles d'alcool, voire 8 bouteilles d'alcool. Et quand il boit assez, il boit jusqu'à 12 bouteilles d'alcool. Quand il se réveille, il boit 2 bouteilles d'alcool avant de commencer la journée. Et la sœur me racontait ceci tout en pleurant. Pasteur, je ne pourrais plus vivre avec cet homme-là. J'en ai assez. Ça fait déjà 20 ans. Elle ne cessa de pleurer. J'ai dit, sœur, arrêtez de pleurer. Appelez-moi votre mari. Et le lendemain matin, à la dévotion matinale, elle vint avec son mari. J'étais assis avec elle et son mari, qui s'appelait Shimon Sop. Après son salut, en fait, ce frère voulait tellement servir le Seigneur. Il travaillait bien dans l'église, mais il n'arrivait pas du tout à s'arrêter de boire. Il s'était forcé tellement de fois à arrêter de boire, mais quelle que soit sa détermination, il ne pouvait pas arrêter de boire. Moi, je n'ai rien dit. J'ai ouvert seulement ce passage d'Hébreux, chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 14 dit que nous avions été sanctifiés par la seule offrande de Jésus-Christ pour nos péchés. Nous n'avions pas été simplement lavés de nos péchés, mais nous avions été justifiés et rendus parfaits. J'ai demandé au frère Shimon Zob, frère, êtes-vous parfait? Il est un alcoolique, il boit tous les jours. Il dira certainement, non, je ne suis pas parfait. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Il est bien dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Êtes-vous parfait? Non. La Bible dit que vous êtes parfait et vous dites que vous n'êtes pas parfait. Qui a raison? La Bible a raison. Frère, êtes-vous parfait? Non, je ne suis pas parfait. Nous avions discuté en fait plus de 10 minutes sur du fait que vous êtes parfait ou non. Frère, vous n'êtes pas parfait. Alors, Dieu aurait-il menti que vous êtes parfait? Alors, si nous nous regardons, ce n'est pas, même dans mon cas personnellement, ce n'est pas parce que je suis véridique ou propre, sans erreur, que je dis que je suis parfait. Je me querelle avec ma femme, je m'énerve, et ma vie aussi est pareille. Je suis un homme qui est imparfait, mais voilà que Jésus-Christ m'a rendu parfait. Par le sang versé à la croix, nous a amenés en fait à la perfection. Si c'était sur l'autel, sur la terre, l'autel qui se trouvait sur cette terre, que ce sacrifice aurait été fait, ce serait un sacrifice temporaire. Mais ce sang a été aspergé sur l'autel qui était dans le ciel. Donc nous sommes rendus parfaits pour l'éternité grâce à Dieu. Donc si Dieu a accompli un tel travail pour nous, il l'a fait de manière parfaite pour qu'il n'y ait aucun manquement. Alors, maintenant que la Bible dit que je suis amené à la perfection. Moi, je ne me vois pas comme en étant une personne parfaite. Je me dispute, je m'énerve, je commets toujours des péchés, et quand je regarde mes œuvres, je suis toujours une personne faillible. Mais puisque nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ à la croix, nous sommes rendus parfaits. En discutant avec le frère Shimon Sao, je lui ai dit ce que c'est que la vie spirituelle. Un petit verre d'eau, un petit verre vert, un ver de terre se transforme en une libellule. Et avant que ce ver ne devienne une libellule, il arrive à porter des ailes. S'il n'aurait pas reconnu qu'il était transformé en une libellule, il aurait eu peur de voler. Si par exemple, bien-aimé, si par exemple vous aviez rencontré un président de la République et le président de la République vous appelle ministre, vous pourriez être ministre. Vous savez que vous n'êtes pas ministre, mais si le président vous nomme ministre, vous pouvez être ministre. Si je me regarde, j'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup d'iniquités, je suis faible, je suis très sale, répugnant. Vous ne pouvez pas cesser de raconter toutes vos faiblesses. Votre vie est pareille. Cependant, Dieu a lavé tout à la perfection. Et il nous a justifiés de manière parfaite. Mais les hommes ne reconnaissent pas ceci. Et ils refusent de dire qu'ils ont été justifiés, ils ont été lavés. Ce n'est pas parce que nous ne commettons pas de péché, ou que nous soyons fidèles, ou que nous commettions des choses de bonnes œuvres. C'est parce que Dieu l'a déjà fait que nous n'avons plus besoin de faire quelque chose avec un cœur hardi. Dieu a rendu parfait nos faiblesses, nos choses répugnantes et sales, et il suffit de croire cela par du cœur. Et dans le chapitre 10 d'Hébreux, verset 14, par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Alors, si nous sommes rendus parfaits pour toujours, êtes-vous parfait ou pas? Par jour, ce frère Shimon Sob ne cesse de boire 12 bouteilles d'alcool, 10, 8 bouteilles d'alcool en moyenne. Et quel que soit son effort d'arrêter de boire, ça ne marchait pas. Et avec ce passage d'Hébreux, chapitre 10, verset 14, Je lui posais toujours cette question. Êtes-vous parfait? Non. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Il est écrit que je suis parfait. Alors, êtes-vous parfait? Non, je ne suis pas parfait. As-tu raison ou Dieu a raison? Dieu a raison ou tu as raison? C'est Dieu qui a raison. Alors, êtes-vous parfait? Non, je ne suis pas parfait. Et il ne cessait de répéter toujours de cette manière. Et puisqu'il voit ses œuvres, il ne peut pas se dire parfait. En fait, de cette manière, il ne faut pas regarder notre image, il faut croire en la parole. Est-ce que vous me comprenez? Ce chapitre 5 du livre de Jean, c'est un passage connu de nous tous. Jésus-Christ dit au malade, lève-toi, prends ton lit et marche. Et de mon point de vue, puisque les normes sont différentes des normes de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ voit la femme de Jaïrus, il disait qu'elle dormait. Alors que du point de vue des autres, cette fille était morte. Et quand Jésus-Christ est allé à la maison de noces en Galilée, en Cana en Galilée, ce qui se trouvait dans les vases, l'eau, en fait, c'était en fait de l'eau qui se trouvait dans les vases. Alors que du point de vue de Jésus-Christ, c'était du vin. Je vous dis très souvent, je vous donne ces exemples. La femme s'arrêta, n'avait qu'une poignée de farine, mais du point de vue d'Élie, cette vase est remplie de farine, de blé. En fait, il y a toujours une opposition entre deux choses. D'une part, c'est mes pensées, d'autre part, c'est la parole de Jésus-Christ. Qui a raison? Est-ce ma pensée ou la parole de Jésus? Alors, à vous de voir. Croyez-vous en la parole de Dieu ou croyez-vous en vos pensées? J'ai dit alors au frère Shimon Zob, tu sais, il faut boire l'alcool. Tu bois tout un verre d'alcool. Tu l'as bu et tu es alcoolique. Maintenant, laisse tomber ton verre d'alcool et tu te dis, je suis un alcoolique, mais dans la Bible, dans la parole de la Bible, je ne suis pas un alcoolique, mais je suis un imparfait. Qui a raison? Est-ce ta pensée ou est-ce la parole? Alors, de mon point de vue, quand je me regarde, je suis très bien en alcoolique, mais si Dieu me voit et qu'il m'appelle juste et parfait, alors je le suis. Si mes péchés ont été lavés à la croix, je suis alors lavé. Je possède ainsi un autre point de vue des hommes ordinaires. J'ai parlé au pasteur qui était venu à la cantate de ce même passage d'Hébreux chapitre 10, verset 14. Pasteur Kim, êtes-vous parfait? Oui, selon la Bible, je suis parfait. Est-ce que vos œuvres sont parfaites alors? Non, mes œuvres ne sont pas parfaites. Alors, comment vous devez-vous faire pour être parfait? Et j'ai dit sur la Bible que nos œuvres ne sont pas parfaites selon vous, mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Que nous sommes rendus à la perfection. Alors, qu'est-ce qui a été amené à la perfection? En fait, c'est à partir du moment où on croit que nos péchés ont été lavés, que ce pardon du péché produit son pouvoir. C'est-à-dire, de mon point de vue, je suis vraiment un homme sale, répugnant et hypocrite. C'est vrai, vous avez raison. C'est pareil pour moi et pour vous aussi. Cependant, si je suis lavé par le sang de Jésus-Christ, je suis alors propre et je suis alors parfait. Je commets certes les péchés, mais si je suis lavé, ça veut dire que je suis juste et parfait. Et au moment où vous croyez que vous êtes parfait, c'est en ce moment que la puissance de Dieu se manifeste. J'ai discuté plus de 20 minutes avec ce frère Shimon Zab en ouvrant ce passage de la Bible pour dire, êtes-vous parfait ou pas? Et j'ai toujours posé cette question. Et c'est après 10 minutes que ce frère a dit, oui, je suis parfait. Pourquoi? Si Dieu dit qu'il est parfait, je le suis. Si Dieu dit que je suis saint, je le suis. Si Dieu dit que je suis lavé, je le suis. Je n'ai pas besoin d'acheter mes pensées devant la parole de Dieu. Et du moment où ce frère Shimon Sab a cru en la parole de Dieu, il a cessé de boire. Je demande, pourquoi tu ne bois pas? Je n'ai pas d'idée de boire. Il ne pense même pas à boire. Ça ne te manque pas? Non, pas du tout. Quelqu'un qui buvait en moyenne 8 bouteilles d'alcool ou 10 bouteilles d'alcool ne pense plus à boire de l'alcool. La plupart des gens se croient mieux qu'à la Bible. Et même dans la Bible, ils croient seulement des parties qui correspondent à leurs pensées et des parties qui ne correspondent pas à leurs pensées, ils ne le croient pas. Et j'aimerais parler sur ce point aujourd'hui avec vous. Dieu nous a rendus parfaits par le sang de Jésus-Christ. Et non seulement il nous a justifiés, mais Dieu voudrait travailler, manifester son travail dans votre vie. Supposons qu'aujourd'hui, vous avez le cancer. Vous avez le cancer. Et le cancer constitue une grande charge pour vous, n'est-ce pas? Parce que c'est une maladie qui a une possibilité de vous faire mourir. Alors, vous avez le cancer. Mais Dieu peut-il vous guérir ou pas? Si, il le peut. Alors, si nous prions devant Dieu, Dieu va-t-il nous guérir ou pas? Si nous prions, Dieu va-t-il nous guérir? Vous avez du mal à répondre. Si vous priez, ne va-t-il pas exaucer votre prière? Est-ce qu'il vous écoute? Si vous croyez que Dieu a écouté votre prière, Dieu va-t-il travailler ou pas? Alors pourquoi vous inquiétez-vous? Si vous priez à Dieu, ah, ça veut dire que Dieu va travailler dans ma vie. Et ça veut dire que Dieu écoute ma prière. Alors, jusqu'à présent, vous n'avez pas seulement cru en Dieu, mais vous croyez à la fois en vos pensées et en Dieu. C'est pourquoi vous ne vous inquiétez pas si c'est une maladie pas trop grave. Et si c'est une maladie, s'il s'agit d'une maladie grave, vous vous inquiétez, vous dites que ce sera impossible et vous avez le doute. Mais ouvrez concrètement la Bible et regardez ce qui est écrit. Vous n'êtes pas en train de croire en la parole telle qu'elle est. J'ai dit à nos pasteurs, « Frère, êtes-vous parfait ou pas ?»« Oui, je suis parfait. » »« Est-ce que votre vie aussi est parfaite ?»« Non, ma vie n'est pas parfaite. » »« Pourquoi ce n'est pas parfait ?»« J'ai beaucoup d'iniquités, je dispute souvent avec ma femme, je ne cesse de mentir, je commets beaucoup de péchés très graves. » Alors, Dieu, Jésus-Christ, n'a-t-il pas lavé ses péchés ?« Si. » »« Alors, êtes-vous parfait ou pas ?»« Je ne suis pas parfait. » »« Oui, parce que je commets du péché. » Je peux expliquer ceci encore de manière plus simple. Il y a deux sortes de pouvoirs. Le pouvoir qui vous pousse à commettre le péché et le pouvoir de laver votre péché. Si le pouvoir de laver vos péchés est plus grand que le pouvoir de faire commettre le péché, est-ce qu'il en restera de péché chez vous? Non, n'est-ce pas? Alors, quel est le pouvoir qui est plus fort? Est-ce le pouvoir qui vous pousse à commettre le péché ou est-ce le pouvoir qui pardonne, qui lave vos péchés? En fait, pour Jésus-Christ, quels que soient vos péchés, quel que soit le mal que vous commettez, il a le pouvoir de les résoudre. Et nous devons le croire. Mais sans se confier, sans se reposer sur ce Jésus-Christ, si je m'efforce à faire du bien, à pardonner nos péchés en faisant des bonnes œuvres, vous verriez qu'il y aura forcément de manquements. Jésus-Christ est le seul à pouvoir laver nos péchés. Si nos péchés n'ont pas été lavés à la croix, nos péchés n'auront pas de solution. Et c'est sur ce point que beaucoup de gens hésitent. Aujourd'hui, ce malade de 38 ans Il a essayé d'aller à l'hôpital. Son père a essayé toutes choses pour lui, mais il n'a pas pu. Finalement, son père est mort, sa mère est morte, et il vit tout seul, et il n'arrive pas à bouger. Il s'est forcé à marcher, ça n'a pas marché. Mais Jésus-Christ dit ici, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce qui est important ici, la parole de Jésus-Christ était cette parole qui a créé le soleil, la lune et les étoiles, qui a créé aussi nous les hommes et l'univers tout entier. Donc, cette parole doit être supérieure à n'importe quelle théorie qui existe sur Terre. Cette parole doit être supérieure à n'importe quelle connaissance qui existe sur Terre. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous avez certes vos pensées, mais il y a aussi de côté la parole. Il peut y arriver que vos pensées semblent justes et bonnes. Mais si cette parole selon laquelle lève-toi, prends ton lit et marche, vous pousse à marcher, vous devez sortir de vos pensées. Et quelles que soient vos pensées, quoique vos pensées paraissent bonnes, si la parole de Jésus-Christ dit ceci, vous devez la suivre. Aujourd'hui, c'est la Madame Park Geun-hye qui est la présidente, la femme présidente de la Corée du Sud. Alors, si le président Si le président fait une décision, qui pourrait contrer cette décision du président? Même au tribunal, si le juge donne son dernier accord, qui pourrait contrer? Quel que soit ce que le procureur dit, si le juge dit que vous avez, si le juge approuve que la personne qui est jugée a le péché, ou si le juge appelle la personne coupable, il est coupable. Et personne ne peut contredire le jugement du juge. Et vous devez savoir que la position de Dieu est pareille à ce juge. Il est supérieur à n'importe qui dans ce monde. Et si Dieu dit qu'on est juste, on est alors juste. Si Dieu dit alors que nous sommes sanctifiés, nous le sommes. Si Dieu dit que nous sommes rendus à la perfection, nous le sommes également. Beaucoup de gens disent que oui, Dieu dit que nous sommes justes, mais je commets du péché. Comment est-ce que je peux être juste? Je suis pécheur, au contraire. Si Dieu m'appelle que je suis juste pour l'éternité, alors que ma vie est toujours imparfaite, pleine de péchés, est-ce que je peux m'appeler juste? Est-ce que je peux m'appeler saint? Vous pouvez aussi avoir vos pensées. Mais si vos pensées sont supérieures à la parole de Dieu, vous allez périr. Et au contraire, si la parole de Dieu est supérieure à votre pensée, cette parole est capable ou en mesure de chasser ou vaincre vos pensées. Et c'est ça, la véritable vie spirituelle. Certes, vous pouvez avoir diverses pensées. Vous avez vos expériences, vous avez vos connaissances, vous connaissez beaucoup de savoir. Quelle que soit votre décision, si Dieu dit non, c'est non. J'ai ainsi élevé mes enfants. Parfois, mes enfants me demandent quelque chose. Je peux dire oui à certaines choses, mais pour d'autres, je dis non. Papa dit non. Je te dis encore une fois non. J'ai été si sévère en élevant mes enfants. En fait, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Que tu deviennes un président, tu ne peux pas tout faire selon ta volonté. Tu dois savoir qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire selon ta volonté. Il y a une histoire très intéressante de mon fils. Il avait appris du taekwondo quand il était tout petit et il avait dit qu'il avait besoin de 50 dollars pour participer à un test pour avoir sa première ceinture. Et j'ai dit, alors pourquoi il faut payer ces 50 dollars? Il a dit, c'était pour payer aux membres du jury Et je lui ai alors dit, est-ce que tu es sûr de pouvoir obtenir cette première ceinture? Et il a dit, oui, ce sont des personnes qui sont sûres d'avoir cette ceinture, qui participent en fait à ce concours. Ok, donc comme tu as ta première, comme tu as les capacités d'avoir la première ceinture, n'y va pas, arrête de faire du taekwondo. Et cela avait blessé beaucoup le cœur de mon fils. Après, en fait, qu'il ait terminé le service militaire, et il est venu me voir pour dire, papa, j'ai quelque chose à te poser comme question. Laquelle? Tu sais, la dernière fois, j'avais tellement voulu avoir ma première ceinture à taekwondo, mais pourquoi ne m'as-tu pas donné 50 dollars? Savez-vous ce que je lui ai dit? C'est parce que je n'avais pas 50 dollars. Et il ne m'avait plus redit depuis ce jour. Et aujourd'hui, mon fils, il a plus de 40 ans. Et il me dit quoi? Qu'autour de lui, il y a beaucoup de ses amis qui mènent une autre vie que lui. Aujourd'hui, il est reconnaissant envers son père, c'est-à-dire moi, qui lui a élevé de manière à ce qu'il brise ses désirs, c'est-à-dire de manière à ce qu'il ne fasse pas ce qu'il veut toujours. Si je vais dans la maison de mon fils, puisqu'il est obéissant, j'aime bien aussi ses enfants, c'est-à-dire mes petits-fils. En fait, si on écoute toutes. Si on répond à tous les besoins de l'enfant, c'est leur comportement ou leur caractère devient très mauvais. Et quand on voulait emmener mon petit-fils chez le dentiste pour arracher une dent, mon petit-fils a crié disant, appelle-moi grand-père, appelle-moi grand-père, je veux pas y aller chez le dentiste. Il pense qu'avec le grand-père, tout pourrait marcher. Cher bien-aimé, l'homme est capable de penser. Est-ce que l'homme est capable de vivre sans penser? L'homme n'est pas idiot de vivre ce monde si dangereux et risquant sans avoir pensé. Oui, vous devez réfléchir, vous devez penser. Mais toutes vos pensées doivent être en dessous de la parole de Dieu. Nous devons chercher les serviteurs de Dieu, nous devons faire des entretiens. Et nous devons aussi être conduits par le serviteur de Dieu. Mais comme vous paraissez être plus intelligent que le serviteur de Dieu, sachant que vos expériences sont plus nombreuses que Dieu, on veut avoir seulement des réponses qui, en fait, qui nous plaisent. Et la façon dont la plupart des gens pensent, c'est la suivante. Ah oui, c'est vrai que Jésus-Christ est mort à ma place à la croix. Et malgré cela, parce que je commets de péché, je suis pécheur. Jésus-Christ est certes mort, je suis pécheur pourtant. Alors, le fait de ne pas croire en fait à la mort de Jésus-Christ signifie que nous méprisons en fait, que nous refusons la croix de Jésus. Imaginez un peu. Vous avez confié votre voiture au garage, mais que votre voiture n'est pas réparée. Au contraire, votre voiture a été réparée par un garagiste, mais si vous dites toujours que cette voiture n'est pas réparée, ça veut dire que vous méprisez le technicien ou le garagiste, n'est-ce pas? Si on vous a bien soigné à l'hôpital et que vous dites que non, je n'ai pas été soigné par un docteur ou un médecin, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à l'hôpital. Mais Dieu, je vous dis, il est plus saint et extraordinaire, il est plus grand qu'un garagiste ou un médecin à l'hôpital. Et s'il est écrit dans la Bible concrètement que nos péchés ont été lavés, le fait de ne pas croire en cela serait le plus grand péché que n'importe quoi. Oui, c'est vrai que le malade de 38 ans, selon sa pensée, marcher, c'est impossible. Comment pourrais-je marcher alors que mes deux pieds sont tout secs et qu'il n'a pas de force? Même si je marche, je tomberai immédiatement. La véritable foi consiste à croire en la parole de Dieu. Marche sur la mer. Oui, je marcherai. C'est ça le fait de croire en la parole de Jésus. Vous me comprenez? Va te laver au réservoir de Siloé. Alors, si je vais et que je me lave dans ce réservoir, je verrai, ma vue sera ouverte. Parce que Jésus-Christ l'a dit, beaucoup de gens ont vu des miracles. En élevant en fait mes enfants, j'ai compris que je ne pouvais pas les élever comme je veux. Quel père ou quelle mère voudrait que leur enfant devienne un brigand ou des drogués? Quels parents voudraient envoyer leurs enfants en prison? Et quels parents voudraient que son fils soit un addict de jeux vidéo? Aucun parent ne veut, mais il existe des drogués aujourd'hui. Et même s'il ne veut pas, il y a des parents qui ont des enfants qui sont addicts de jeux vidéo et qui sont des alcooliques. C'est pourquoi, même si je ne veux pas que mes enfants ou même mon fils deviennent ce que je ne veux pas, il y a toute capacité, toute possibilité qu'ils le deviennent. Alors je savais précisément que j'ai des faiblesses pour élever mes enfants ou mon fils. C'est pourquoi j'ai remis dans la main de Dieu l'éducation de mon fils. Et je pouvais voir précisément comment Dieu élevait mon fils à ma place et de même que ma fille. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à laisser leur vieillesse, leur avenir, leur travail, leur foyer dans les mains de Dieu, alors que Dieu peut toutefois les protéger. En fait, l'homme, il voit. Il essaie de remettre leur vie à Dieu et s'ils voient que ça ne marche pas un peu, ils le retiennent. En fait, un jour, un moine traversait un fleuve. Et quand il traversait le fleuve qui était en fait tout gelé pendant l'hiver, par erreur, il a eu des fentes et il a failli mourir. Il a dit, si je traverserais ce fleuve sain et sauf, je donnerais tout ce qui m'appartient à Dieu ou tout ce que j'appartiens au Bouddha. Mais après avoir traversé ce fleuve sain et sauf, il a dit non, ce serait une perte pour moi d'offrir tout ce que j'ai au Bouddha. Peut-être ça paraît très marrant, mais ça nous arrive aussi. Parfois, on a du mal à remettre notre vie en entier à Dieu parce qu'on le considère ça comme une perte. Le frère Hoinsu ici a été guéri du cancer. Et c'est par la foi qu'il a été guéri du cancer. Après tout, il a eu la leucémie. Et il a été encore guéri par la foi. Et quand il avait ce cancer-là, une fois, deux fois, il a dit, ah ça, c'est une bénédiction. On fêtera ça. Quand il est allé à l'hôpital, en fait, il avait le cancer aussi bien que 3 ans avant. C'est-à-dire, comme il avait le cancer il y a 3 ans, il avait aussi ce même cancer qui était resté. Normalement, il devait être quelqu'un qui devait mourir. Mais voilà qu'il vit toujours. Nous croyons au fait des choses seulement officielles. Qu'est-ce que nous disons? Ah, si je crois en Dieu, mais Qu'est-ce qui pourrait arriver après? Le diable vous trompe, disant, qu'est-ce que tu vas faire si ça ne marche pas? Tu n'as pas la foi, tu es manquant. Il nous donne ses pensées. Lorsque nous acceptons cela, au lieu de nous donner en entier à Dieu, puisqu'on n'a pas la foi, on a du mal. On ne peut pas comparer l'éducation de Dieu, l'éducation de mes enfants dans les mains de Dieu et dans mes propres mains. Lorsque vous faites opérer, par exemple, à l'hôpital, ce n'est pas vous qui travaillez, mais c'est le médecin qui travaille, n'est-ce pas? Pourquoi cela? Est-ce que le médecin est meilleur que nous? Celui qui peut mieux opérer, c'est bien le médecin et non pas vous. Et si vous portez vraiment ce cœur, Dieu peut manifester de même dans votre vie. Mais Satan nous trompe et il veut que nous ne perdions rien en dehors du fait que nous avons le pardon du péché. Nous acceptons seulement des paroles qui conviennent à notre cœur. Et si ça ne correspond pas, beaucoup de gens vivent sans foi. Quand Jésus-Christ était sur cette terre, il dit que tout soit fait selon ta foi. C'est ainsi que le malade 38 ans s'est levé, il a marché, et que l'aveugle de naissance a ouvert les yeux depuis qu'il s'est lavé dans le réservoir de Siloé. Dans votre vie aussi, Jésus-Christ est capable de manifester son travail. Tout récemment, grâce aux formations de l'éducation, grâce aux formations de l'esprit, un frère avait raconté l'histoire de son fils. Il a parlé de son fils qui était en fait un peu handicapé, psychologiquement en fait. Et il avait trouvé un jour en train de sucer quelque chose, et quand il l'a enlevé, il a vu que c'était un bonbon qui a été sucé par quelqu'un d'autre et qu'il a jeté. Et donc, il y avait plein de fourmis dans sur ce bonbon. Et c'est ce qu'il était en train de sucer encore. Et alors, le père se disait, si je laisse cet enfant, il voudrait que cet enfant meure avant lui. Et si je meurs avant lui, que va-t-il se passer? Il pensait d'abord à sa mort. Forcément, il va mourir avant son fils. Donc, que va-t-il devenir son fils après sa mort? Un jour, sa femme, qui le persécutait beaucoup, était venue avec lui. Sa femme venait à l'église. Et ce mari avait beaucoup persécuté en fait sa femme qui allait à l'église. Et par hasard, il est venu à l'église, le mari était venu à l'église pour être entretenu avec un pasteur. Et après lui avoir parlé seulement à moitié de l'évangile, il a dit de revenir encore le lendemain. Il est encore revenu le lendemain. Il a reçu le salut. Et après son salut, le pasteur lui a dit, votre enfant constitue une bénédiction pour vous. C'est grâce à lui que vous aviez reçu le salut. Donc, votre enfant deviendra tout à fait normal. Croyez-le. En fait, le QI de cet enfant n'atteignait que 50. Donc, il ne peut pas il peut pas entrer à l'école normalement comme les autres enfants. Alors qu'il avait l'âge d'aller dans classe de CE2. Donc, même en regardant son enfant, il disait, toi, tu es normal, tu es normal. Arrête d'agir ainsi. Même la sœur Choi Soyeon, qui a le cancer, avait dit que sa femme était un marâtre. Pourquoi? Cette sœur, en fait, souffre du cancer. Elle a du mal à marcher. Elle boite même quand elle marche. Mais sa mère le laissait apporter tous les bagages, soi-disant que tu es normal, donc tu n'as pas droit de dire que tu peux pas porter ce sac. C'est pourquoi la sœur, tu es sûre, disait que sa mère était un marade, parce que si elle était vraiment sa mère, elle n'aurait pas fait ainsi. Et en réalité, elle a été guérie en ayant cette foi. Et ce frère dont ce fils, le fils avait un problème, un manque intellectuel, avait dit qu'après son test d'entrée au collège international, il a eu un résultat de QI qui a atteint 85. Et cela est incroyable. Il pensait toujours qu'il devait mourir comme il devait mourir avant son fils. Il se disait, qui pourrait aider mon fils après ma mort? Maintenant, il vit très bien dans une école d'internat et il vit très bien avec d'autres amis, d'autres camarades. Aujourd'hui, il est même président de sa classe. Et parfois, il prend le premier prix lors des concours de natation. Donc, aux yeux de n'importe qui, il est un enfant très normal. Oui, avant, il n'avait qu'un QI de 50. Mais comment un enfant de QI 50 peut travailler diligemment, peut tout faire comme un enfant normal? Donc, le père avait la ferme assurance que son fils allait devenir un homme, un grand homme. Même sans vous avoir donné ces exemples, Dieu est capable de tout faire. Et aujourd'hui, c'est toujours lui qui vous a délivré du péché. Et dans votre vie, dans la vie de tout le monde qui a reçu cette sainteté par le sang de Jésus-Christ, il est capable de transformer votre vie. Jésus a dit alors, tu es parfait, tu es saint, tu es juste. Et c'est moi qui ai tout fait ça pour toi. Mais nous disons, je suis faible, je suis manquant, j'ai beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup d'iniquités. Si vous n'arrivez pas à vous délivrer de votre image, délivrer de votre faiblesse, vous ne pourriez pas croire en la parole. Mais au contraire, si vous vous délivrez de vous-même pour croire en la parole, vous verrez de nombreux miracles dans votre vie. Par le nom de Jésus-Christ, le malade de 38 ans s'est levé et a marché. Et il est guéri, n'est-ce pas? Mais nous, avant de voir le travail de Dieu, nous croyons que ce serait impossible. Parce que Jésus-Christ a lavé mes péchés, il a rendu parfait mon esprit. Quel que soit ce que je suis, Dieu m'a déjà rendu propre. Il m'a donné déjà toutes choses. Il a fait de sorte que n'ayant aucun manquement pour vivre avec Jésus-Christ. Et il nous a même donné le nom de Jésus-Christ. Et Dieu nous dit, je t'ai déjà tout donné. Mais l'homme se dit, non, moi je ne peux pas. On écoute la parole de Satan. Et il y a beaucoup de gens qui sont enfermés par cette pensée de Satan. Cher bien-aimé, si vous reculez, vous ne pourriez pas obtenir la foi. Donc vous suivrez automatiquement toujours les pensées données par Satan. Vous irez dans d'autres voies différentes de Dieu. Et si vous allez vers une autre voie différente de l'Église, Satan vous donne l'idée d'aller à l'encontre de l'Église. Il vous donne la charge, le fardeau de vivre par la foi. Écoutez-moi bien. Laissez tomber aujourd'hui toutes les conceptions aujourd'hui que vous avez et lisez concrètement la parole. Si Dieu ou le Seigneur vous dit que vous êtes juste, vous l'êtes, d'accord? Si Dieu vous a amené à la perfection, vous êtes amené à la perfection. N'essayez pas de vous appeler juste en vous voyant en fait, en voyant vos œuvres qui sont justes. Mais lorsque vous croyez en la parole selon laquelle Dieu vous a rendu juste, le Saint-Esprit va fortement travailler en vous. Au-delà des choses qui sont possibles par l'homme, même les maladies, ou les problèmes de famille, les problèmes des enfants, les problèmes financiers, amenez-les-en devant le Seigneur. Ne vivez pas toujours dans la difficulté. Croyez que le Seigneur veut bénir votre vie. Le Seigneur veut vraiment vous bénir. Il veut vous donner la santé. Il veut vous donner aussi de l'argent, du temps pour travailler pour Dieu. Et il vous donne aussi la foi pour vivre pour Dieu. Affranchissez-vous de votre vie pour mener désormais la vie de Dieu. Si vous expérimentez cela une fois, deux fois, vous verrez qu'il est facile de mener la vie spirituelle. Je vois très souvent des gens très pauvres qui étaient très difficiles, qui mènent une vie prospère à partir du moment où ils vivent par la foi. C'est pourquoi je vois qu'ils trouvent beaucoup de grâce auprès de Dieu, même concernant leur foyer ou leurs enfants. Les gens du monde paraissent avoir la fortune ou la richesse et apparemment ils semblent mener une vie très heureuse. Mais intérieurement, ils ont beaucoup d'inquiétudes, ils ont beaucoup de peur. Mais à nous, nous avons le Seigneur. Et le Seigneur prend en charge de toute notre peur et toutes nos inquiétudes. Le Seigneur est désormais notre maître et il est responsable de toute notre vie. Nous croyons seulement en lui. Et si nous confions en lui, je crois qu'il rendra possible ce qui paraît impossible à mes yeux. Si le Seigneur dit qu'il dort, elle dort. Si le Seigneur dit qu'il est guéri, il est guéri. Si le Seigneur dit que la vase de fleurs de farine est pleine, elle est pleine. Si le Seigneur vous dit de marcher, c'est juste de marcher. Et si Dieu vous dit que vous êtes parfait, vous l'êtes. Amen. Est-ce que vous avez... J'espère que vous dites tous Amen. À partir du moment où le Seigneur et sa puissance entrent en vous, il est tout à fait vrai que cette puissance de Jésus-Christ peut travailler et manifester dans votre vie. Alors, à partir du moment, reposez-vous, ayez du repos, et j'espère que vous verrez le travail du Seigneur dans votre vie, que ce soit dans l'Église. Celui qui vit par la foi, il ne peut qu'être béni par Dieu. Mais celui qui ne court pas par la foi, il s'éloigne de Dieu et de l'Église au fur et à mesure parce que cela donne beaucoup de fardeaux. Les gens seront ainsi trompés par Satan pour aller à l'encontre de l'Église. Et pour eux, aller à une Église qui n'est pas née de nouveau aussi ne leur cause pas de problème. C'est ainsi que Satan nous trompe toujours. Il nous donne le fardeau de vivre par la foi. Il nous amène vers la direction où on peut vivre sans la foi, pour que nous menions par les méthodes humaines. Mais puisque les méthodes de l'homme sont différentes des méthodes de Dieu, l'Église devient une charge, un fardeau, au fur et à mesure. Le malade de 38 ans savait qu'il ne pouvait pas marcher, mais il a cru en Dieu. Et la parole aussi parle souvent de la foi, comme l'exemple de la foi d'Abraham. C'est quand il avait 100 ans, sachant que sa femme était stérile, il savait très bien qu'il ne peut pas être, il n'était pas en mesure d'avoir un enfant. Mais si Dieu dit qu'il aura un enfant, il aura. La parole de Dieu a été supérieure à sa connaissance et son savoir-faire. Oui, c'est vrai, ce que je sais, c'est ça, mon expérience, c'est ça, ce que j'ai vu, c'est ça. Mais que dit la parole? Quand nous regardons la parole et... quand nous voyons que la parole dit cela, je dois faire évacuer mes expériences, mon savoir-faire, pour choisir au contraire la parole de Dieu. C'est en ce moment que Dieu peut travailler dans votre vie. J'ai mené 70 ans dans le Seigneur. Et autour de moi, j'ai beaucoup de mes amis qui qui finissent par vivre une vie de vanité. Un ami que je connaissais, il a en fait économisé assez d'argent lorsque c'était le monsieur Park Chung-hee qui était président de la Corée. Et tout dernièrement, quand je lui ai rendu visite, il avait un petit restaurant. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, oui, c'est vrai, l'argent parfois, il te semble donner quelque chose, mais en fait, c'est rien du tout. Il a dit, je me satisfais de manger 3 fois par jour, c'est déjà bon. C'est ainsi que les gens, ils ont peur, ils ont des soucis. Mais lorsque vous remettez votre vie à Jésus-Christ, c'est le moyen le plus parfait, le plus sûr et le plus prospère. Si vous croyez en la parole de Dieu telle quelle, en laissant tomber les pensées de la chair, je suis sûr que le Seigneur vous conduira dans la vie, vers la vie bénie et glorieuse. Nous allons prier tous ensemble.